Et à la une en Israël, on va parler du plan Trump en 21 points et j'attire votre attention sur le fait qu'on va avoir le point de vue israélien maintenant et puis juste ensuite à 8h30 dans USA I Love America, eh bien on parlera également de ce plan Trump en 21 points avec David Benaïm qui nous parlera du point de vue américain bien entendu. Pour l'heure, on retrouve notre ami Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, qui, avec Lise Benkemoun, nous parle du point de vue israélien de ce plan Trump en 21 points. Lise, je vous laisse en parler avec Raphaël Jérusalmi.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Raphaël, depuis ce week-end, tout le monde discute de ce fameux plan Trump en 21 points. Il y a beaucoup de critiques qui se sont déployées en Israël. Et en même temps, il y a le président Yitzhak Herzog qui salue ce plan et qui a dit qu'il est ambitieux et révolutionnaire. De quel côté vous êtes?
Alors, je précise tout de même que personne n'a encore lu les 21 points du plan. Donc, on parle beaucoup en l'air car on ne connaît pas tous les détails. Et Benjamin Netanyahou n'a pas informé le cabinet de sécurité, ni le chef de l'état-major de Tsahal, du contenu exact de ce plan. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu pour en discuter de façon approfondie. On sait que c'est, en tous les cas, le plan le plus jouable, le plus faisable jusqu'à présent, avec deux points d'interrogation. Est-ce que le Hamas va l'accepter? Et le second point d'interrogation, est-ce qu'Israël va l'accepter? Parce que pour le Hamas, il s'agit tout de même de rendre les armes, de rendre le pouvoir qu'il a sur Gaza, et donc d'être démantelé dans Gaza. Il peut survivre politiquement ailleurs, dans les territoires et dans d'autres pays, mais à Gaza, c'est une démission totale du Hamas, alors qu'il doit, pour que ce plan rentre en fonction, rendre tous les otages d'un seul coup. C'est quand même un gros morceau à avaler pour le Hamas. Je vois mal qu'il l'accepte, même s'il y a des pressions de l'Égypte et du Qatar. Sur le plan israélien, le souci principal, c'est si on accepte ce plan, comment a-t-on des garanties pour que Tsahal puisse opérer librement ensuite s'il y a des menaces sécuritaires sur Israël? Car une fois que Tsahal se retire de la bande de Gaza, et qu'entre en jeu des forces internationales, on parle même de gens du Qatar, hein, ce qui est quand même un comble, que le Qatar entrerait dans Gaza, de quelle manière ça peut opérer librement si jamais il y a des menaces donc de roquettes ou d'attentats sur Israël. Ça, ce sont les deux points d'interrogation. Du côté israélien, énormément de pression politique, d'une part de la part des familles d'otages, d'autre part de ce qu'on des gens des implantations de Judée Samarie qui eux veulent pousser Benjamin Netanyahou à exiger de Trump le OK d'annexer au moins une partie de Judée Samarie. Donc il y a ici un chaos politique certain. Je pense que le président Herzog a raison de dire que ce n'est pas un bon accord, comme aucun des accords jusqu'à présent proposés n'était un bon accord, mais c'est celui qui a le plus de chances de réussir. C'est surtout, à mon avis, un accord de la dernière chance.
Alors, en tout cas, Raphaël, il y a aussi un autre point qui semble compliqué pour les Israéliens, c'est le rôle de l'autorité palestinienne. Israël ne voulait pas que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas participe au futur gouvernement de Gaza. Et visiblement, les États arabes avec qui Donald Trump a discuté de son plan avant de le présenter auraient largement insisté sur ce point.
Oui, ça va être aussi effectivement un problème. C'est assez étonnant, les revendications israéliennes actuelles, lorsqu'on sait que la politique menée pendant des années par Benjamin Netanyahou a été de laisser le Qatar s'ingérer dans ce qui se passait à Gaza, à coup de milliards même, et que effectivement il a supprimé la possibilité de l'autorité palestinienne d'avoir un contrôle sur Gaza, alors que c'est la seule entité avec laquelle, par exemple, si on regarde bien la Judée-Samarie, tout en sachant qu'Abou Mazen est un terroriste à col blanc et qu'il supporte même le terrorisme armé, a quand même prôné une politique de coopération sécuritaire avec Israël, et les services de sécurité palestiniens ont plus d'une fois déjoué des attentats vers Israël, surtout lorsqu'il s'agissait du Hamas. Et justement, la présence, à mon avis, de services de sécurité de l'OLP dans Gaza, ça serait, à mon avis, un avantage et non pas un désavantage, parce que justement, il y a une rivalité avec le Hamas qui ferait que l'OLP ferait un excellent travail, à mon avis. Donc, le principal dans tout ça, c'est pas de savoir si Abou Mazen revient ou ne revient pas sur Gaza, si le Qatar entre ou n'entre pas, alors qu'il est déjà de toute façon infiltré financièrement et politiquement dans la gestion de Gaza. Le véritable point, c'est comment retirer nos billes, comment sortir le plus vite possible de ce bourbier de Gaza, ne plus risquer la vie de nos soldats et de nos soldats dans une opération dont je rappelle qu'elle est inutile, cette offensive sur Gaza City. Je le rappelle sans hésitation parce que c'est l'avis du chef de l'état-major de Tzahal et des généraux de Tzahal. Ça met en danger inutilement nos soldats et nos soldates et même les otages. Et donc s'il y a une chance, même sur 100, qu'on puisse récupérer tous ces otages d'un seul coup, grâce à cet accord, il faut l'apprendre. C'est la dernière chance, je l'ai dit. Quant aux garanties, je peux vous assurer que le moment venu, si nous devons éliminer des gens du Hamas, si on doit rattraper les terroristes qu'on aura libérés contre les otages et les éliminer plus tard, on le fera. Ce sont des gens, des morts vivants. Ils marchent sur leur propre tombe. Donc je pense qu'on n'a rien à perdre et tout à gagner de cet accord, avec évidemment des points qui sont douloureux, des prix exorbitants à payer, mais il faut bien comprendre que nous ne sommes pas et nous ne serons pas, même avec toutes les offensives du monde, en position de supériorité pour négocier une libération des otages. À partir du moment donné où des otages israéliens sautent aux mains de l'ennemi, nous avons une position d'infériorité, et l'ennemi le sait bien. C'est pour ça qu'il va monnayer très cher cette dernière carte qu'il a à jouer.
Raphaël, parmi les gens qui ont été très critiques, plusieurs expliquent surtout que même si le Hamas accepte aujourd'hui et fait semblant de prendre du recul, dans quelques mois ou même dans quelques années, ils vont, a priori, en tout cas selon les experts en question, assassiner leurs remplaçants, les technocrates quelconques, et revenir au pouvoir à Gaza. Vous y croyez, vous aussi, à ça ?
Non, pas nécessairement, mais de toute façon, comme je l'ai dit, c'est quelque chose, effectivement, qui reporte le problème à plusieurs mois ou plusieurs années d'ici. En attendant, il y a une urgence, c'est libérer les otages, et comme je l'ai dit, il sera toujours temps de régler son compte au Hamas ensuite. Alors ça pourra prendre des mois ou des années, comme on vient de le dire, mais on pourra régler son compte au Hamas, et il n'y a pas d'ailleurs que le Hamas, il y a d'autres factions, dont le djihad islamique et même Daesh, qui pourraient essayer de prendre le contrôle de Gaza, à savoir qui le Qatar financera et qui le Qatar aidera. Parce que le véritable problème, ce n'est pas le Hamas, ce n'est pas le djihad islamique, c'est le Qatar. C'est le Qatar qui est derrière tout ça. Le Qatar, c'est le diable, nous le savons. Et le Qatar, c'est inclus tôt ou tard. Malheureusement, il y aura peut-être une nécessité de frapper le Qatar, comme nous avons frappé l'Iran, car ce sont des ennemis d'Israël, mais des ennemis du monde libre. C'est les frères musulmans, c'est ce qu'il y a de plus intégriste, satanique, hypocrite dans cette attitude, dans ce djihad qui se prépare. Le Qatar a un agenda clair et simple que les Européens, en tous les cas, l'Occident, s'aveugle dessus, c'est de renverser le monde libre, c'est de renverser le monde occidental et d'instaurer la charia dans le monde. Et ça, ils le font à coups de milliards. Ils achètent des intérêts économiques extrêmement importants de par le monde, un peu à la manière des Chinois, et rongent les démocraties. C'est un ennemi extrêmement dangereux, extrêmement fourbe, et personne n'a l'air de s'en occuper. Au contraire, les Américains préfèrent y défendre leurs intérêts pétroliers et militaires pour des raisons bassement économiques. Et donc, il se pourrait bien qu'un jour Israël soit obligé d'intervenir même là, car c'est un pays extrêmement, extrêmement dangereux, qui est en train en plus de s'armer d'équipements extrêmement modernes. Ça, c'est un danger, mais c'est un danger à plus long terme. Il faut attendre. Il y a, comme je l'ai dit, une urgence. Je suis scandalisé par le fait que les dirigeants du mouvement des implantations demandent en fin de compte à Benjamin Netanyahou de refuser cet accord s'ils ne peuvent pas annexer la Judée-Samarie, alors que c'est sacrifier les otages. La Judée-Samarie, je suis tout à fait d'accord pour l'annexer, c'est Israël, c'est la terre du peuple juif, mais c'est véritablement pas le moment maintenant, lorsqu'on peut libérer des otages, d'exiger cela. Ce n'est pas juif de le faire. Il y a une priorité humaine et humanitaire qui avant cette avancée politique.
Raphaël, pour finir, vous parliez du Qatar et de sa dangerosité et de la mentalité mercantile des gens qui sont ses alliés. Et on peut citer les États-Unis effectivement et la France encore plus. Est-ce que justement l'originalité de ce plan de Donald Trump, ça n'est pas d'avoir mis tout le monde pour que chacun ait un intérêt à ce que ça à ce qu'il ait lieu? Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire principalement tous les États arabes, puisqu'il les a rencontrés avant même d'avoir présenté ce plan au Hamas et à Israël.
Oui, je trouve que c'est une très bonne chose, une très belle initiative, impliquer les États arabes dans le maintien de l'ordre et la reconstruction de Gaza me paraît une bonne chose. On ne peut pas le faire d'ailleurs sans eux. Je pense qu'en échange de cela, on pourra avancer dans tout ce qui est accord d'Abraham et normalisation avec ces États arabes et avoir une stabilité ou un apaisement du Proche-Orient qui me paraît louable. Donc je pense véritablement que de toute manière, État arabe ou même des martiens, qui prend Gaza, Gaza c'est un gros problème, c'est une patate chaude, brûlante. Je suis pour que n'importe qui prenne Gaza, sauf nous. Nous devons nous débarrasser de Gaza, fermer la porte et jeter la clé. Il ne faut plus perdre un seul soldat ou soldat israélien sur le sol de Gaza. C'est inutile, ce sont des morts inutiles. On en a perdu suffisamment pour avoir cette avancée, pour détruire la force militaire du Hamas, car ça, nous l'avons fait. Il ne faut pas oublier que le Hamas n'est pas démantelé, mais qu'il est vaincu sur le plan militaire, qu'il est très, très amoindri, et même aussi sur le plan politique. Donc, il y a une réussite de Tsahal dans Gaza. L'échec, et on l'a toujours dit depuis des mois, l'échec, a été de ne pas savoir bâtir sur cette réussite militaire une réalité politique nouvelle, le fameux jour d'après. Eh bien, Donald Trump propose un jour d'après que jusqu'à présent, le cabinet de sécurité israélien et le Premier ministre n'ont jamais proposé. Ils sont venus, eux, avec zéro proposition sur ce qu'on faisait de Gaza après, au point que le chef d'état-major de Tsahal, il y a quelques jours, a demandé de savoir vers où on allait et quel était le but de son offensive. Alors, je pense que Donald Trump est en train de sauver Israël de sa passivité et lui donner sur un plateau, avec un soutien américain extrêmement important, donc on ne peut pas se passer, une solution possible.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires et également écrivain, et vos tribunes de guerre viennent de paraître chez David Reynard. Bonne journée à vous et merci.